Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
C'est le moment où on se confie, où on partage les expériences, où on apprend à, avec Christophe, on apprend des choses sur vous, souvent.
C'est pas nous qui allons parler d'argent.
Oh, t'es sûr, toi?
Oui.
Les GG, cette semaine, on a parlé de la valorisation salariale demandée par Ousmane Dembélé après son ballon d'or. On a parlé des exhibitions il y a quelques instants, de Yannick Sinner, comme Alcaraz, qui a donc reconnu que sa participation à l'exhibition en Arabie Saoudite, elle était aussi guidée par l'argent. Je rappelle, il a gagné 6,5 millions, hein, donc pour avoir remporté le 7, Six 5. King Slam. 7,5.
Ouais, il a pris 1,5 million de garantie, 6 millions de prêts de monnaie.
Ah, toi sur l'argent, on peut pas t'avoir.
Non, c'est les mathématiques.
Waouh, impressionnant.
Savoir compter quand on est sportif de haut niveau.
Aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça, un sujet qui est souvent un petit peu tabou dans le monde du sport, en France même peut-être en général. Comment l'argent guide votre carrière. J'ai deux tennisman avec moi, on parle souvent d'argent autour des tennisman, et j'ai un basketteur. Tiens Fred, je voudrais qu'on commence par toi. Fred,
je suis le plus mauvais exemple que tu pouvais choisir.
Non mais comment l'argent a guidé ta carrière, toi? C'est quelque chose qui est présent forcément, évidemment.
Alors,
dans les choix.
J'ai alterné le fait de penser que l'argent était très important avec le fait de penser que c'était pas important, et dans les deux cas, je me suis planté. Un résumé, j'ai 22 ans, je viens d'être drafté par New York, et je viens d'avoir une année fiscale, je retourne à Limoges, le club est en faillite, je redonne 70% de mon salaire pour que le club continue à exister. Et là, je me dis, il faut que je me refasse. Il y a le PAOK Salonique qui m'appelle, je vais signer au PAOK, et tout le monde me dit, en Grèce, c'est compliqué, ils ne payent pas tout le temps, etc. Ben, je vais en Grèce, parce que franchement, le contrat qu'ils me proposaient était mirobolant pour deux saisons nettes d'impôts. En plus, il faut s'en rendre compte quand même.
Donc, tu vas notamment pour l'argent.
Et j'y vais pour l'argent, que pour l'argent.
Parce que quand tu quittes New York, tu t'assois quand même sur énorme paquet d'argent.
En fait, quand je quitte New York, ils me proposent 5,6 millions de dollars sur 4 ans. Et moi, je leur dis non, mais je reviendrai l'année prochaine, je me remets de mon dos, donc je vais à Limoges, je perds 70% de mon salaire. Et là, mon agent va en prison, enfin, il y a un embroglio un peu compliqué. Et je me retrouve à choisir un club entre Malaga, qui me propose une certaine somme d'argent, et le PAOK Salonique, qui me propose 1,550,000 euros net d'impôts sur 2 ans. C'était plutôt correct, net d'impôts surtout. Et donc j'ai dit, allez, moi je me refais, je viens de me taper une année où j'ai rien gagné, voire j'ai perdu de l'argent, j'y vais. Évidemment, au bout d'un mois, ils m'ont pas payé, ils me font un chèque en bois, je le pose à la banque, le banquier m'appelle, ah, il est bien ce chèque, mais il y a rien dessus. Donc là, je me dis, il faut que je change ma façon de voir les choses, et je me dis qu'il faut que je choisisse le sportif. Et c'est plus l'argent qui a guidé. À partir de là, je suis allé à Malaga, j'ai gagné un peu moins d'argent, mais je savais qu'il y avait des échéances. Je finis l'année à Malaga, je gagne un titre. Et je me dis que c'est peut-être le meilleur choix possible. Je crois que choisir le sportif avant l'argent est bien plus intéressant. Et après, quand on a des opportunités, je suis pas contre les opportunités, hein, évidemment. Mais je pense que le sportif est plus rassurant, et il y a plus de sécurité finalement dans le sportif que dans l'argent.
Mmh. Alizé, l'argent qui guide la carrière. Alors dans le tennis, c'est singulier, c'est un sport individuel en plus. Hein.
Mmh, oui, il faut pas oublier que nous, les joueurs de tennis, on est des chefs d'entreprise. Donc à part notre chambre d'hôtel qui est payée par le tournoi, c'est nous qui dépensons de l'argent pour assumer notre staff. Nos kinés, entraîneurs, préparateurs physiques, toutes les personnes qui voyagent avec nous, c'est quand même à notre charge. Donc ça fait des frais assez conséquents. Et c'est vrai que
tu leur payes des billets en première quand tu voyages.
Ils voyagent en soute en général, c'est quand même moins cher. Et non, mais c'est vrai que c'est vraiment une formation en accéléré, hein, d'être joueur de tennis, parce que moi je suis passée pro à 15 ans. Alors j'ai été beaucoup épaulée par mon grand frère qui a veillé au grain, qui a été là pour me guider. Mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre conscience de cette valeur de chef d'entreprise qu'on a, et qui nous fait décider avec qui on travaille, qui on va payer, avec qui on va voyager. Et moi, ça n'a jamais été une source de motivation, l'argent. Jamais, jamais. J'ai toujours été consciente que c'était important pour que je puisse investir dans ma structure et devenir de plus en plus professionnelle, que c'était important.
Ouais, t'étais consciente quand même que ça servait à
évidemment,
à progresser.
Voilà, en fait, pour moi, c'était un outil pour devenir meilleur. L'argent a toujours été un outil pour devenir meilleur. J'ai toujours eu dans un coin de la tête que j'aimerais faire des économies pour plus tard être à l'abri, surtout que je suis passée pro assez jeune et j'ai eu une très longue carrière, donc j'ai eu la chance de, en faisant des placements intéressants, d'être à l'abri, donc ça a été mon objectif. Mais après, on a tous une approche très différente de l'argent. Moi, je connais des joueurs qui, dès qu'ils engrangent un prize money, vont le flamber, à faire la fête, à dépenser de l'argent, à aller sur un yacht, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours un rythme de vie très très simple, et finalement, l'argent que je récoltais, il me servait pour être meilleur et pour ma carrière. Après, c'est vrai que nous, dans le tennis, on a des gros prize money et il y a des joueurs qui partent très vite à l'étranger, Dubaï, la Suisse, la Belgique notamment, pour justement ne plus payer d'impôts, puisqu'en France, on se fait quand même défoncer. Mais moi, j'ai choisi de rester en France parce que c'était un choix de vie. J'avais pas envie de me cacher à l'étranger, donc je suis restée en France. J'ai payé mes impôts et je les paye toujours depuis que je suis devenue pro. Et ça aussi, c'est vraiment un choix de vie, un choix de carrière qui peut vraiment déterminer la suite, puisque pour le coup, on n'a pas les mêmes revenus quand on part à Dubaï ou quand on reste en France.
Et à un moment dans ta carrière, est-ce que tu as eu des périodes où l'argent rentrait moins parce que tu gagnais moins? Est-ce que tu étais obligé de faire des choix, d'emmener un tes entraîneurs ou non avec toi en tournoi, parce qu'on le voit avec les joueurs qui sont un peu moins bien classés que vous l'étiez. Vous êtes vous étiez l'élite du tennis français, mais pour certains c'est très dur de joindre les deux bouts, hein.
Moi pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis restée quasiment dans le top 50 toute ma carrière, donc finalement j'ai eu très peu de fluctuations de prize money. J'ai eu des sponsors qui m'ont suivi régulièrement dans ma carrière, donc je pouvais quand même mettre en place les structures que je souhaitais autour de moi. Mais c'est vrai que ça peut être très anxiogène pour des joueurs qui ont des saisons un petit peu haut et bas.
Tu en as vu beaucoup dans ta carrière, des joueurs
pour lesquels l'argent était une source de stress, oui, beaucoup. Surtout quand on sort du top 100 et que finalement les revenus sont un peu éclectiques.
Être dans le tableau, réaliser les qualifs dans un tournoi du Grand Chelem,
ça peut faire une énorme différence entre les tableaux finales de Grand Chelem, les qualifs de Grand Chelem. Ça peut faire une énorme différence. Il y a des joueurs au-delà de la 100e place mondiale qui ne peuvent quasiment pas voyager avec un staff ni avec un entraîneur. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours pu choisir et c'était un confort incroyable parce qu'au final, quand on est sur le court, on peut jouer juste pour le sportif, comme tu disais Fred, sans se soucier du reste. Et moi, le sportif, effectivement, je l'ai toujours mis en priorité. Et pour moi, la motivation principale, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même, d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est vrai que ça, c'était quand même très confortable.
Par rapport aux sponsors, comment ça se passe? Parce qu'on parle d'argent. Est-ce que quand tu as une super perf, tu vas avoir d'autres sponsors?
T'as des primes de résultats.
Tu vas en chercher d'autres, ils viennent te chercher.
Souvent, c'est le travail des agents, ça. Hein. C'est le travail des agents. Nous, on le fait pas. C'est les agents.
Alors moi, ça. Commercial, quoi.
Ah, mais c'est intéressant, ça. Vous gérez pas votre argent directement?
Les contrats. Quand Fred dit, après une grande performance, est-ce qu'il y a des sponsors qui viennent, etc. Ça, en général, nous, on le fait pas.
Oui, mais c'est un droit de regard, quoi.
Oui, bien sûr, on a un gros droit de regard, mais il y a un agent
qui signe. Quand même.
Et puis, bien sûr.
Ton agent.
Mais ça dépend vraiment de là où tu fais une grosse perf. Par exemple, Loïs Boisson qui explose.
Je pense justement.
Voilà, à Roland Garros. Là, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire que c'est la dernière française en course, demi-finale, en France, à Paris, Roland Garros. Donc, il y a forcément son agent là.
C'est lui, jackpot là, elle a changé de vie d'un coup.
Ouais. Hein, je sais pas. Ouais, non, mais alors déjà, le prize money est énorme.
Valentin Vacherot, c'est pas mal aussi, hein, qu'il a gagné cette semaine.
Non, mais énorme. Mais aussi. Du point de vue des sponsors, là, son agent, c'est lui qui reçoit beaucoup de coups de fil, ou quand il contacte des gens, ça répond tout de suite. Et là, après, ils ont le choix. Donc là, après, peut-être que l'athlète, elle va se dire, OK, bah, je préfère être lié avec telle marque ou lié avec telle société qu'avec une autre.
Et vous le dites pas au départ en disant, moi, je préfère que vous cherchiez dans ce secteur-là parce que ça correspond plus à mes valeurs.
Non, c'est compliqué, ça.
Le seul piège, c'est par exemple, on l'a vu avec le cas de Raducanu, tu en parlais tout à l'heure, de ces joueuses qui ont un coup d'éclat sur un tournoi, un énorme coup d'éclat. Pour le coup, dans son cas, c'était gagner un grand chelem en sortant des qualifications. Elle avait l'avantage d'être très bankable, d'être jolie, d'être très jeune. Et au final, je pense qu'elle s'est laissée un tout petit peu absorber par toute cette médiatisation. Sa boîte d'agent a dû gérer les contrats en prenant tout ce qu'il pouvait prendre. Elle a signé des millions de contrats de dollars.
Mais presque plus parce qu'elle était une sorte d'influenceuse. Elle était joueuse de tennis. Donc
c'est sa performance sportive qui a déclenché le truc, mais derrière, ça s'est renflammé par le fait qu'elle soit un peu influenceuse parce qu'elle est beaucoup suivie sur les réseaux, qu'elle est très photogénique ou télégénique. Ouais. Elle est britannique, qui est quand même un marché et un pays où ils portent au nu leur star sportive. Et elle a signé. Et là, du coup, c'est des sommes qui sont.
Mais ça, du coup, écrasée par la pression qui a suivi finalement ces signatures de millions de dollars de contrats.
Bien sûr.
Et elle n'a pas réussi du haut de ses 18 ans.
Exactement. Pareil, non,
c'est ça. Mais en fait, si tu fais un rapport.
Elle n'a pas eu les mêmes résultats que Raducanu, elle n'a jamais gagné Grand Chelem.
Si tu fais un rapport, le prize money qu'elle peut gagner en un an, donc sur le terrain, par rapport à ce qu'elle gagne en dehors du terrain, c'est x5 pour Raducanu. C'est le fait de donc l'écart il est énorme.
Dans le vestiaire des grandes gueules du sport, le sujet c'est comment l'argent guide votre carrière, un sujet qui est souvent un petit peu tabou. Alizé, j'ai retenu une phrase que tu as dit tout à l'heure, c'était on a les carrières éphémères, l'important c'est de se mettre à l'abri, aussi se mettre à l'abri, c'est quand même un sujet qu'on entend beaucoup chez les jeunes footballeurs aussi, qui sont beaucoup parfois approchés dans tous les sports de haut niveau. Toi, Fred, c'est quelque chose auquel tu pensais aussi. Il va falloir engranger rapidement.
Moi, j'avais cette expression, je veux pas manger des cailloux après ma carrière.
Parce que souvent, il faut le dire aussi, les sportifs, alors ils viennent de tous horizons, des familles modestes, des familles un peu plus riches. Donc parfois,
ils ont pas le même rapport avec l'argent.
Le même rapport avec l'argent. Non, mais parfois, il y a un vrai enjeu pour un enfant prodige, par exemple, même pour toute une structure familiale, même.
J'ai le problème d'avoir une famille qui était très structurée. Alors, on vient pas d'une famille très riche, mais mes deux parents étaient ouvriers en Lorraine dans la sidérurgie, donc évidemment que non, mais c'était des bons terriens, c'était des Italiens immigrés, donc forcément
un sou est un sou
exactement, et la première volonté effectivement c'est de se mettre à l'abri, de se dire qu'à la fin on ne sera pas obligé de venir bosser sur les grandes gueules du... se dire qu'à la fin on sera pas obligé d'aller courir à droite à gauche, et évidemment. Après, moi, j'ai eu un contexte après ma carrière qui a été très compliqué moralement, mentalement, et qui m'a fait faire des erreurs. Mais jusque-là, tout se passait extrêmement bien. Le plan était sans accroc, j'ai envie de dire. J'ai fait ce que je voulais. J'ai une vie, comme Alizé, extrêmement simple. La preuve, j'ai jamais de montre, j'ai pas de moi tous ces objets de luxe là ne représentent absolument rien à mes yeux, et c'était
voiture,
plus important.
T'as pas une Porsche,
j'ai une toute petite voiture, donc non,
tu dois être beau dans la Fiat 500.
Après, je pense qu'on se met à l'abri aussi suivant les besoins qu'on se crée. C'est-à-dire que moi, je peux être à l'abri avec très peu d'argent parce que mes besoins sont très faibles aussi, donc c'est plus simple aussi.
Il faut pas oublier qu'on est des jeunes retraités, hein, à 35 ans, la première carrière professionnelle est terminée, et c'est vrai qu'il faut y penser assez tôt pour pouvoir anticiper et
mais
trouver une reconversion.
Est-ce que vous êtes fait des cadeaux de milliardaires, justement?
Moi, jamais.
En gagnant beaucoup d'argent.
Alors,
jeune.
Deux, moi.
Tu t'es fait des cadeaux, toi?
Ça m'intéresse.
Vas-y, Bennett, c'est quoi le premier?
Moi, en 2006, je suis nulle part. Au début de l'année, je suis 150e mondial. Et on parlait des primes des sponsors. Et en fait, j'avais des grosses primes si j'étais chez un sponsor, mais j'étais 200-250e mondial, donc j'avais ce qu'on appelle une somme fixe qui était ridicule. Et puis je fais Carrara Roland Garros, donc je monte, toi, je suis 60e mondial, et puis je joue pas mal dans l'été, et je vois sur mon contrat si je finis l'année top 50, j'ai une grosse prime, parce que quand j'ai signé le contrat 3 ans avant,
mais il peut pas imaginer, ouais.
Bah oui, j'étais 200e mondial.
Attends, ça t'a motivé quand même.
Exactement.
Ça t'a guidé.
C'est la seule fois où, et j'ai dit à mes entraîneurs, j'étais avec Olivier Malcor et Olivier Soulès. J'aurais dit, si j'arrive à être top 50, je m'achète une voiture. Et l'objectif, c'était une Porsche. Et donc, parce que ça correspondait pile poil, le bon bonus.
Le montant.
C'était, allez, je prends le chèque du bonus et je le vais directement à la concession, c'était ça. Et arrive le dernier tournoi de l'année à Bercy et je joue 100€ au premier tour.
Et t'arrives avec ta Porsche à Bercy?
Non, j'avais fait les calculs.
Ah oui, il fallait que tu...
Donc je regarde. Et d'après mes calculs, si je passe le premier tour, c'est bon. Je gagne. Et je me souviens, mon entraîneur dans le Players Box, quand je gagne, il me fait la voiture. Le volant, c'est bon, c'est fait. Et en fait, je joue derrière Fernando González, qui joue la place au Masters. Je le bats. Et heureusement, parce que si je ne l'avais pas battu, je finissais 51. J'ai mis tout dans les calculs.
Tu t'étais planté dans les calculs. Et le mec, il me batte sur les mathématiques tout à l'heure. C'est incroyable quand même.
Donc ça, voilà, c'est vraiment le...
T'es arrivé comme un roi, concessionnaire. Quand t'as pris ta Porsche.
Oh, non, mais voilà.
Avec l'alias, tu sais.
Ah, forcément, ça peut être une source de motivation, évidemment, pour se faire plaisir.
Petite carotte,
petite carotte.
C'est le truc où je me suis fait plaisir sur mes 18 ans de carrière.
Moi, je me suis fait simplement un cadeau de fin de carrière. Donc, l'année dernière, puisque je savais pas que j'allais faire un comeback cette année. Et mon cadeau de fin de carrière, c'est que je me suis offert un fourgon aménagé. Voilà. Sur lesquels je, un van aménagé sur lequel je pars sur la route. Avec lequel je pars sur la route.
Ça coûte plus cher ou moins cher qu'une Porsche?
C'est beaucoup moins cher. Non, c'est beaucoup moins cher.
Ça dépend comment il est aménagé.
Il est très très bien aménagé. C'est aux alentours de 40 000 euros. Mais pour moi, c'était un énorme cadeau que je me faisais. Je m'étais jamais octroyé quelque chose de cet ordre-là.
Ça te permet de faire des économies. Tu vas pouvoir l'hôtel.
Oui, puis surtout, ça me permet de rester dans cette vie simple que j'adore. Et pour moi, c'était vraiment le cadeau le plus symbolique que je pouvais me faire.
Bon, moi, je pétais
donc les eaux grises, les eaux noires et tout ça.
Je connais par cœur.
Fred.
Ouais, je dis, j'ai pété les plombs une fois. J'étais en vacances et je vois un Hummer. J'avais jamais dépensé d'argent de ma vie. Honnêtement, tous mes potes me connaissent. Quand je dépense 100 balles, c'est le bout du monde. Je suis pas bien. Et là, il y avait un Hummer qui m'attendait. Je l'ai acheté en vacances.
Non, mais c'est pour ça.
J'ai acheté le Hummer.
Là, peut-être vous nous écoutez. Vous dites, oh, mais ils sont complètement hors sol. Regardez ce qu'ils s'achètent. Mais mettez-vous à la place justement des sportifs. Si un jour vous êtes sportif de haut niveau, d'un coup vous gagnez beaucoup d'argent alors que vous n'étiez pas forcément habitué ou issu d'une famille avec de l'argent. Qu'est-ce que vous auriez fait finalement à la place de Fred Weiss, de Julien Beneteau
on gagnera jamais cet argent-là. Mais moi je trouve ça sain de quand tu gagnes de l'argent te faire au moins un cadeau dans ta carrière, s'acheter une Porsche.
Bon, on est quand même dans une table assez raisonnable, hein, moi je trouve. J'aimerais bien avoir d'autres joueurs invités. Moi j'ai quelques noms en tête.
Non, mais aussi c'est différent entre un sport individuel où Alice disait on est salarié, on est chef d'entreprise entre guillemets, et un sport collectif où ils sont salariés d'un club. Et après eux, ils ont des choix à faire en fonction des propositions. Est-ce que je vais dans un club pour le sportif et gagner un peu moins? Est-ce que là j'ai une proposition? Bah, on voit bien les joueurs de foot. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a d'autres clubs qui proposent des salaires.
C'est
des vrais choix de vie, des vrais choix de carrière. Et sur les sports individuels, à un moment donné, il faut mettre les choses à l'endroit et se dire que si on est fort sportivement, dans les sports individuels, l'argent viendra. Donc il faut tout faire pour être performant.
Mais il ne faut pas tout faire pour essayer de gagner de l'argent.
Exactement. C'est ça, mais non, c'est parce que là, tu peux faire des mauvais choix.
Là, tu te perds.
Tu peux faire des mauvais choix. Tu peux prendre un entraîneur qui va te coûter moins cher à la semaine en tant que joueur de tennis. Mais s'il est moins bon qu'un mec qui est plus. Et que tu gagnes moins de matchs. Oui, bah, sur le moment, quand tu vas sortir, quand tu vas payer. Tu vas avoir l'impression de gagner de l'argent parce que tu dis, tiens, je fais des économies, il me coûte moins cher que l'autre.
Mais d'ailleurs.
Et sur deux ans, peut-être que tu as gagné beaucoup plus de matchs et des tournois et de prize money, et donc du coup,
il t'a coûté plus cher.
C'est un vrai investissement. Donc voilà, faire toujours des choix en fonction de ce que tu penses être le mieux pour toi sportivement, parce qu'à la fin, en tout cas dans le milieu du tennis, tu gagneras de l'argent.
L'argent sera une conséquence finalement de tes choix sportifs.
De tes choix et de tes résultats.
On va fermer la porte de ce vestiaire, mais c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous écoutent là, souvent on pose cette question, mais qui entendent tous ces sujets-là, il faudrait se préparer à gagner de l'argent dans le sport de haut niveau.
Comment tu te prépares à gagner de l'argent?
Mais non, mais je sais pas. Est-ce que
il y a des formations maintenant pour savoir quoi faire de ton argent?
Nous, les basketteurs, on a de plus en plus les agents qui t'accompagnent, qui t'expliquent, qui sont accompagnés par des personnes, mais en soi. C'est pas facile
déjà,
de
préparer.
En fait, c'est gagner au loto à 18-19 ans. Voilà. Il faudrait d'abord gagner au loto à 18-19 ans, être accompagné par la Française des Jeux.
La première chose et l'essentiel, c'est d'être bien entouré. En fait, à partir du moment où tu es bien entouré par ta famille, déjà, dans un premier temps, tu te protèges de beaucoup de pièges.
Oui, parce qu'il est arrivé quand même que de grands sportifs de très haut niveau fassent de très mauvaises affaires. Ils se fassent même rouler par des membres de leur famille. Je me rappelle de l'histoire de Carole Merle, par exemple, grande skieuse française, dont le parrain était en fait son agent. Et il l'a roulé dans la farine.
Alors, ça, Sanchez, qui s'est fait voler par son père et tant d'autres.
Mais c'est pour ça que c'est un sujet intéressant aussi, parce que vous savez, on parle aussi dans le football maintenant de ces parents qui ont des projets Mbappé pour leurs enfants, qui veulent en faire des champions pour gagner beaucoup d'argent finalement. Donc c'est un vaste sujet.
C'est encore un autre sujet. Ça.
Et Madame Dembélé, elle est pas contente. Elle a demandé au fisc, mais c'est pas possible. Il m'a filé 200 000 euros et il faut que je paye des impôts dessus. Non mais attends.
Le père de Yamal qui parle aussi de l'argent à chaque fois qu'il peut gagner grâce à son fils. Il dit tout le temps merci, je gagne de l'argent grâce à mon fils et tout ça. Donc c'est vrai que tout le rapport de l'argent. Ça peut nous donner plusieurs vestiaires, hein, parce que c'est un sujet très complexe, parce que ça guide pas forcément la carrière principalement, mais c'est forcément omniprésent dans vos carrières d'une façon ou d'une autre. On referme la porte du vestiaire, les amis, toujours fascinant de vous entendre dans ces moments-là pour savoir un peu ce qui se passe finalement dans votre intimité sportive de haut niveau. On sait pas toujours et c'est forcément toujours intéressant. Dans quelques instants, vos grandes gueules du sport sur le buzzer, mais d'abord, je vous rappelle qu'il y a un jeu à la fin de l'émission, les jeux du sport. Vous pouvez participer pour gagner avec vos GG un PC portable de la marque Altic aujourd'hui. Participez au quiz avec les GG en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Envoyez sport au 7-32-16. Il y a un ordinateur à gagner comme ça, juste en envoyant sport au 7-32-16. Et peut-être que si vous jouez avec Fred Weiss, il est assez performant dans le jeu.
C'est vrai.
Ça peut vous aider à passer l'année, par exemple, avec un nouvel ordinateur.
En plus, je suis prêt à tout.
C'est plutôt sympa. En plus, il est prêt à tout, vous avez entendu.
Il ne veut pas dépenser 100 balles pour acheter un ordinateur.
Ça, c'est vrai.
Si tu peux lui filer, ça l'arrange.
Ça, effectivement, ça peut m'arranger.
Allez, dans quelques instants, vous savez que les frères Lebrun sont encore en haut de l'affiche. Ils sont en finale des championnats d'Europe par équipe. Aujourd'hui, est-ce que ce sont déjà des légendes du sport français? Oh, ça divise déjà nos GG du sport. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.